Bonsoir, vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios. Le Canu Info de ce lundi 30 septembre 2013, autant dire le dernier Canu Info du mois de septembre pour l'équipe du lundi et pour les autres aussi d'ailleurs. On va aborder avec Michel et Jean-Pierre dans les studios et Robert en duplex l'actualité internationale. Elles sont toutes chargées aujourd'hui, aussi bien l'international que la nationale. International avec une préférence, Michel, pour un sujet.
Pas particulièrement. Qu'est-ce que tu as lancé?
Soit on va vers l'Afrique, soit on va vers l'ONU et la résolution syrienne, où il y a un pays, il y a un gros sujet européen aussi. Ah bon, on peut régler la question, si on peut dire, de la résolution onusienne, donc sur la Syrie. Depuis 2 ans que la guerre dure, c'est la première fois que le Conseil de sécurité arrive à se mettre d'accord sur un texte. Il a l'avantage pour obtenir un accord de ne pas être contraignant, donc tout va bien. Il s'agit tout simplement de demander à Bachar el-Assad de faire un bilan et une destruction de ses armes chimiques. Il a dit qu'il était d'accord sur tout, donc ça baigne. Néanmoins, pendant ce temps-là, chaque jour qui passe, il y a une cinquantaine de raids de bombardements d'aviation. Hier, ils ont encore tué 16 collégiens dans un collège. Donc on fait la guerre autrement. Et de ce côté-là, les choses ont l'air de se calmer. La communauté internationale est contente aussi, puisque Barack Obama, comme Hollande, ont l'impression d'avoir réalisé un exploit en obtenant ces avancées diplomatiques, dans l'attente, tout ça, d'une conférence de Genève à mi-novembre, dont on ne sait pas trop ce qu'il en sortira. Et les opposants sont très réservés, et l'Assad, quant à lui, est prêt à y aller, puisque pour lui, tout est simple, tout est clair, il doit rester là où il est et venir à bout de ses opposants.
Oui, alors d'un point de vue diplomatique, c'est un échec retentissant pour la France, pour les États-Unis aussi, une victoire pour la Russie, et surtout pour Bachar el-Assad. Lui qui se retrouve renforcé finalement, alors qu'il y a encore un an, on ne voulait pas entendre parler de lui en tant qu'interlocuteur pour une sortie de crise. Aujourd'hui, c'est le partenaire incontournable donc pour trouver une solution politique au conflit syrien. À tel point que là où à Genève, il y a encore quelques mois, les Occidentaux ne voulaient pas entendre parler de sa présence ou de ses émissaires au pourparlers. Aujourd'hui, il est le bienvenu pour cette conférence qui apparemment est programmée pour la mi-novembre à Genève. Quant aux États-Unis, on a bien vu sur ce dossier-là, ils ont pris la balle au bond, du moins la perche tendue par Lavrov, donc de ce plan de comptabilisation et de destruction programmée des armes chimiques syriennes. On voit bien là que les Américains, sur ce dossier-là, étaient un peu pris au piège de ce que, malencontreusement, Barack Obama avait lancé il y a plus d'un an, à savoir la fameuse ligne rouge ne pas dépasser. Et une fois dépassée, il fallait agir, il fallait faire quelque chose.
Passer les bornes, il n'y a plus de limite.
Tout à fait, il fallait faire quelque chose, mais on s'est rendu compte assez rapidement que l'opinion publique américaine ne suivait pas, malgré la machinerie médiatique, parce que les éditoriaux aux États-Unis étaient quand même pro-intervention, pro-bombardement. Mais on a senti la lassitude chez les citoyens, et tout ça dans un contexte où le vote s'annonçait comme un vote de défiance finalement pour Obama. Donc il a pris un peu comme un sauvetage donc cette proposition de Lavrov. Quant à la France, que dire? On a été suiste jusqu'au bout. On a été jusqu'au boutiste plus que les États-Unis. Donc plus fort, on a abouillé plus fort que notre maître. Et une fois effectivement qu'on a choisi le compromis, donc la solution politique, on s'est retrouvé un peu nu. Et on l'a encore vu là dernièrement, donc au vote de l'ONU, là où la France ne voulait pas entendre parler de signature avec le régime de Bachar al-Assad, et bien maintenant contrainte et forcée, donc elle en accepte le principe. C'est assez lamentable, pour tout dire, que notre diplomatie se soit abaissée à ce niveau-là, donc de soumission aux États-Unis. Mais c'est un constat, c'est une réalité, donc on ne compte plus sur la scène internationale. On a encore un strapontin au Conseil de sécurité, on se demande bien pourquoi. Il n'a plus aucune valeur, enfin, on ne pèse plus d'aucun poids. Notre voix est totalement inaudible sur la scène internationale, et tout le monde l'a compris à l'étranger, effectivement, que voilà, on a accepté la mainmise donc des États-Unis sur notre sphère de la politique étrangère.
Robert, tu voulais revenir sur le sujet ?
Oui, pour enchaîner derrière ce que dit Michel, j'ai sous les yeux le titre du Monde diplomatique d'octobre, donc qui sort en ce moment, et le titre, eh bien, il est très très dur. C'est Syrie punir ou réfléchir ? Cinglante débâcle de la diplomatie française. Hein, c'est cinglante débâcle de la diplomatie française. C'est donc la une du Monde diplomatique du mois d'octobre. Trois réflexions. D'une part, il faut dire que depuis 2 ans, et peut-être que Hollande ne s'en est pas aperçu, tellement il était grisé par son succès en Afrique, succès on va le mettre entre guillemets, au Mali, on en parlera peut-être un peu aussi, et qu'il n'a pas vu que la conjoncture internationale n'était plus la même, surtout au Moyen-Orient. D'une part, beaucoup de gens avaient compris qu'en éliminant Bachar, on ajoutait de la déstabilisation à de la déstabilisation, et que c'est le chaos qui allait un peu plus prendre le pas sur la prétendue démocratie qu'on souhaitait instaurer dans cette région. Donc au nom de la stabilité, eh bien effectivement, c'est un peu, on va dire, de la politique réaliste. Et au nom de la stabilité, faudra peut-être effectivement composer avec Bachar. Pour autant que, il faut le rappeler, il y a des élections l'année prochaine, des élections présidentielles en Syrie. Donc c'est quand même important de savoir si elles seront démocratiquement organisées, sous contrôle international, onusien, je ne sais quoi. Deuxième point, c'est effectivement le fait que cette stabilité, elle s'imposerait par le maintien de Bachar, au vu de l'évolution des printemps arabes où tout ne se passe pas comme là aussi les Occidentaux le souhaitaient, et c'est surtout l'Égypte qui sans doute est l'élément qui fait réfléchir beaucoup. Parce qu'aujourd'hui l'Égypte, eh bien, ce sont les militaires qui s'emparent du pouvoir, c'est-à-dire un pouvoir fort qui ne s'appuie pas forcément sur les volontés populaires, quoi qu'on pense des résultats des élections, mais c'était quand même la volonté populaire qui s'était exprimée et qui est aujourd'hui réduite pour partie et uniquement d'ailleurs confinée entre les mains d'une minorité, certes une minorité qui plaît aux Occidentaux, c'est la minorité laïque, la minorité dite modérée, etc. Bon. Et ce constat de l'Égypte, de l'évolution en Égypte, contribue donc à dire, eh bien, non, c'est dommage, mais va falloir faire avec Bachar. Et puis, c'était déjà prévisible depuis quelques mois. Et la diplomatie française, on l'a dit, avec notre vaillant chef de guerre et son premier couteau, Fabius, ne se sont rendus compte de rien, ou alors ont fermé les yeux, et le prix à payer, ben, c'est ce que Michel a dit, ben, c'est effectivement une toute petite place dans les instances de l'ONU, d'ailleurs, de l'ONU dont on ne fera pas l'éloge forcément, même si cette fois-ci on est assez satisfait, on peut être content de sa manière de réagir.
Voilà, Cyril, on a parlé du Mali, on peut continuer d'en dire quelques mots, puisque là je vous trouve pessimiste avec la diplomatie française. Grand succès au Mali, le problème c'est qu'il va falloir y retourner et que ce problème qui était réglé ne l'est pas tant que ça, puisque à Kidal, comme il y a eu des attaques, et les opposants... Touareg, voyant arriver les renforts de l'armée malienne, se sont passablement énervés. Et du coup, samedi même, il y a aussi eu 4 djihadistes qui se sont fait sauter devant un camp militaire et qui ont tué 2 civils.
Et à Tombouctou, je crois. Hein, Tombouctou, oui. Également.
Ça, c'est à Tombouctou, oui. Mm. Et des affrontements dans les rues, il a fallu que la Serval, l'ONU, intervienne pour calmer un peu le jeu dans la ville. Donc, une fois le grand Sachem Hollande reparti dans son pays, il semble que chacun a repris ses positions et que ce qui était définitivement réglé, ben, ne l'est peut-être pas tant que ça, quoi.
C'était médiatiquement réglé, comme du papier à musique, il y a quelques mois, lors de l'opération Serval. Mais la réalité, on en a déjà évoqué ici, le Mali, cet État qui s'est complètement liquéfié avec ses instances représentatives, donc ses politiques complètement corrompues. Qui ont facilité, avec la France bien sûr, qui a su instaurer le chaos en Libye, tout ceci donc a favorisé l'émergence donc de l'irrédentisme du nord du Mali, hein, l'arrivée de djihadistes, plus la revendication de la population touareg, qui n'en pouvait plus d'être administré donc par le sud, par Bamako, d'autant plus que cet État avait complètement failli. Les choses n'ont pas changé. Juste à rappeler effectivement qu'il y avait dans cette armée moribonde malienne, donc avant l'intervention de la France, hein, il y avait un général pour 10 soldats. Voyez-vous ça. Donc on allait loin comme ça.
Et on n'était pas au Mexique.
Et juste pour dire que le problème reste de fond, il n'a pas été réglé. C'est pas seulement le problème de l'islamisme, c'est aussi le problème d'une population au nord qui veut s'auto-administrer. Alors dans quel cadre, ça on va le voir. Ça sera un processus long. Mais il semblerait qu'il y ait beaucoup de désillusions pour la diplomatie française là aussi sur ce dossier-là, et qu'à long terme la situation risque d'être plus que chaude.
Voilà notre sujet, Romain, avant qu'on en vienne à parler de l'Europe où il y a quand même des choses importantes qui se sont passées ces derniers jours.
On évoquait les USA à propos de l'ONU. On avait entendu le cri de joie, d'enthousiasme d'Obama après le vote de la résolution syrienne. Mais Obama, effectivement, il a un problème important à régler en ce moment. C'est avant minuit ce lundi soir, enfin avec le décalage horaire, ça fait un peu plus, que doit être voté le budget 2014 états-unien. Et pour l'instant, une grande majorité, pour ne pas dire la totalité, des républicains refusent de le voter. Alors les fantasmes vont très loin, puisque la menace est brandie du fait que 800 000 fonctionnaires demain matin, enfin à l'heure américaine, pourraient recevoir un mail, une note informatique leur disant qu'ils pouvaient rester chez eux parce qu'il n'y avait pas de sous pour les payer.
Bon, oui, ça, évidemment, il paraît que c'est la 19e fois que ce scénario est présenté.
Oui, c'est du folklore, mais il n'empêche que c'est une difficulté pour Obama qui veut absolument jouer plutôt le consensuel, parce que il pourrait, comme il l'a fait un peu, il l'a finalement fait, c'est-à-dire décrocher des républicains quelques personnages pour faire passer son budget. Mais il aimerait une espèce de gloire personnelle qui met à ce que ça soit maximum consensuel. Alors c'est... Bon, je suppose qu'il faut penser de cette politique, mais visiblement, je crois qu'elle lui fait perdre beaucoup de temps et l'empêche peut-être d'attaquer d'autres problèmes tout aussi importants concernant effectivement le rapport des États-Unis au monde qu'il néglige d'ailleurs ces temps-ci par exemple, et il donne peu de place au débat sur l'écologie, l'environnement, le réchauffement climatique. Il n'a pas tellement le temps de s'en occuper, donc, alors que c'est un sujet central, et notamment depuis quelques jours avec pour ce qui est par exemple en France du rapport du groupe international, enfin en France mais international, groupe international d'experts sur l'évolution des climats. Bon, c'est un exemple. Et ce Obama, il perd du temps, voilà, il perd du temps, semble-t-il. Et bon, c'est son problème.
Et son histoire de vote du budget, il semble que ça bute sur la mise en application de la loi sur le système de santé un peu universel, quoi. Les républicains veulent, bien que ce soit voté, lui faire reporter d'un an la mise en place, quoi. Et ils en font un préalable. Alors on va voir s'il arrive à leur faire avaler la pilule ou pas, quoi. Une pilule qui est bienfaitrice quand même, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est les intérêts particuliers des plus riches contre la santé de l'ensemble de la population.
Oui, tout à fait.
Voilà, on peut peut-être dire quand même un mot du Nigeria, parce qu'il y a de quoi s'inquiéter de ce qui se passe là-bas avec ces attaques de Boko Haram à répétition, hein, au mois de juin, au mois de juillet. Il y a une volonté de s'en prendre communautairement des islamistes radicaux contre les catholiques. Là, ils ont descendu 40 étudiants en débarquant dans un établissement au titre que, effectivement, c'est l'éducation occidentale doit être laïque, doit être bannie, et que ce groupuscule veut installer un État islamique au nord. Qui ne reconnaîtrait que les règles de l'islam et qui n'enseignerait que les règles de l'islam. Alors, est-ce que dans ce pays énorme, le Nigeria, où les tensions sont fortes, l'armée qui effectivement essaie de revenir en force va arriver à prendre la main sur ces attaquants qui, par des coups de main, on va dire, font 10, 20, 30, 40 morts à chaque fois, et en profitent au passage pour détruire l'établissement scolaire dans lequel ils interviennent.
Oui. Mais juste à rappeler que l'émergence de Boko Haram, ou que ce soit les mouvements islamistes en République centrafricaine, juste à côté, ne pourrait pas se faire sans le financement donc des États du Golfe, et plus particulièrement des bienfaiteurs d'Arabie Saoudite. C'est toujours cette notion-là qui est assez déroutante, bien souvent les premiers instigateurs de ces insurrections armées contre la laïcité ou contre un État central. Ont été formés, enrôlés en Arabie Saoudite et sont arrivés avec des fonds et prospèrent dans cette région, dans tout le Sahel. Et se pose là aussi la question, à savoir pourquoi nous qui occidentaux, hein, qui avons peur de l'islamisme, qui combattons l'islamisme, pourquoi on ne s'attaque pas donc à la source de financement, à savoir aux bienfaiteurs du Golfe. Et car on voit bien, on peut toujours s'attaquer militairement à l'islamisme, à coup de drone, à coup d'opération spéciale. C'est pas pour autant que l'islamisme disparaît, au contraire, il prospère et de plus belle. Et d'où une vraie question, à savoir si nos dirigeants occidentaux n'ont pas besoin donc de cet épouvantail au niveau mondial pour asseoir leur politique.
Voilà, je vous propose de passer à la rubrique européenne parce qu'on a quatre sujets importants, l'Italie, la Grèce, le Portugal, l'Autriche. Peut-être commencer par la Grèce, oui, où Aube Dorée, donc ce parti fasciste, extrême droite, a subi une arrestation de son chef et d'une vingtaine de ses dirigeants suite à l'assassinat de Pavlos Fissas, dont des révélations ces derniers jours laisseraient entendre que c'est un député du fameux parti qui a commandité l'assassinat. Ça pose des gros problèmes. On sait que il y a toujours eu en Grèce un parti d'extrême droite. On l'avait vu s'épanouir au temps des colonels, pour ceux qui se rappellent de cette histoire. Mais là, les ponts d'or qu'on lui a fait, et la liberté qu'on lui a laissé de se développer dans le cadre des parlements a conduit à ce genre d'extrémité. Alors maintenant, tentative de réagir. Comment est-ce que ça va se passer? C'est à suivre encore. Commentaire? Non, pas spécialement. Je parle de l'Italie aussi.
Alors, oui, vas-y. Juste un commentaire, c'est-à-dire si on peut se réjouir effectivement que ce parti néo-nazi soit décapité, et surtout sa représentation politique, il n'en demeure pas moins que ma crainte, c'est qu'on nous acceptions donc ce type de politique, cet état de fait, et que demain soit aussi condamnable comme ça l'émergence de mouvements qui s'oppose justement à la politique de la Troïka qui met à genoux la Grèce, et de voir justement ce qu'on appelle l'extrême gauche aussi décapité et ne plus être représenté sous prétexte que ses proches, ses militants agissent, sont actifs dans la rue. Donc faut faire attention aussi à cet aspect-là, c'est-à-dire jusqu'à quel point on peut accepter, en l'occurrence, parce que là on peut dire effectivement qu'on a fauché Aube Dorée du jour au lendemain, jusqu'à quel point effectivement on peut accepter que des représentations donc au Parlement d'une certaine frange donc de la population puisse disparaître comme ça du jour au lendemain. Faut être vigilant, tant que ça reste l'extrême droite qui est concernée, on a tendance à regarder ça d'un œil plus ou moins bienveillant, mais rien ne dit effectivement que ce type de politique va se cantonner à uniquement des partis venant de l'extrême droite.
Italie, Berlusconi fout la pagaille. On sait qu'il a été condamné en justice, il est menacé de plusieurs années de prison, mais enfin il ne les fera pas. Du coup, il a décidé de donner un grand coup de pied dans la fourmilière, et sans même leur demander leur avis, il a démissionné ses cinq ministres, les cinq ministres de son parti qui étaient au gouvernement, espérant par là créer une grave crise politique en Italie, qui impose une démission, qui sait, du président, du chef du gouvernement. Finalement, ça fait un petit peu flop, parce que l'État pense, lui, qu'on va pouvoir trouver d'autres ministres, que la question de confiance sera posée mercredi au Parlement. Donc, on ne s'affole pas et on n'envisage pas tout de suite la démission. Néanmoins, au Sénat, Berlusconi et ses partisans sont majoritaires, sauf si il y a des défections, parce que, par exemple, dans les ministres démissionnés, il y en a qui tirent un peu la gueule en disant que si on aurait au moins pu leur demander leur avis pour savoir s'ils avaient envie de démissionner. Donc, il y a peut-être un petit peu du mou dans les cordes du côté des partisans de Berlusconi, qui sont peut-être plus ou moins en train de le lâcher au profit de leur propre carrière politique.
Ça dépend ce que l'État, le Premier ministre, hein, et Berlusconi d'autre part, vont mettre sur la table pour garder ou pour débaucher les quelques sénateurs, parce que c'est les sénateurs qui lui manquent à l'État pour faire passer ce qu'il veut, parce que le fond de l'histoire, c'est la demande d'exclusion du Sénat de Berlusconi suite à sa condamnation en justice.
Voilà, qu'est-ce qu'on peut dire? Le Portugal aussi, alors la gauche revient aux élections municipales seulement, mais il semble que là aussi les méfaits des plans drastiques imposés à la population se retournent contre les dirigeants de centre-droit du Portugal, et ce sont les socialistes qui ont remporté les municipales. Et puis en Autriche, élections aussi avec... une coalition qui se maintient tout juste au pouvoir, celle des sociaux-démocrates et des conservateurs, donc, avec en face un FPE, le parti d'extrême droite, qui augmente ses voix de 4%. Alors, l'extrême droite en Autriche, c'est un endroit où ça ne nous surprend pas vraiment, c'est bien là, parce qu'ils ont une bonne vieille tradition dans le domaine, qui fait que des moments, ils apparaissent plus ou moins, et là, ils sont... avec poussé par le courant eurosceptique dans le pays de l'Union européenne, qui est un des plus riches, si ce n'est le plus riche, on voit quand même l'extrême droite montrer son nez.
Oui, et là on voit bien que ce n'est pas lié au facteur chômage, puisque le chômage, 6-7% seulement en Autriche.
Voilà, d'autres sujets, on n'a pas épuisé l'actualité, mais Michel, tu avais autre chose dont tu voulais parler ? Pas spécialement.
Non, l'Europe, non.
Toi, Robert, aussi.
Simplement, dans la série des tentatives de créer des unions nationales un peu partout en Europe pour soi-disant faire face à la crise, et on voit combien ces unions nationales finalement produisent des effets encore plus désastreux. Bon, on en parle, l'Autriche, l'Italie, la Grèce, et puis on peut ajouter l'Allemagne qui se prépare aussi à une grande coalition entre la droite et la gauche pour gouverner le pays, et donc ajouter de la confusion à l'analyse qu'on peut faire de la crise et des responsables de cette crise tout entière basée sur la spéculation, et notamment la spéculation financière.
Voilà, alors pause musicale, on va la faire avec un petit hommage au petit Louis, à Louis Lecoin, qui, jour pour jour, s'il était encore vivant, aurait 125 ans. Vieux militant anarchiste qui a traversé toutes les guerres depuis 1888, on va dire, en se singularisant par des positions politiques à chaque fois. Et la chanson s'appelle Petit Louis, elle est de Roland Hainaut, interprétée par Elisabeth.
Si vous en tuez 2-3 millions, on vous refile une décoration. Condamné ou félicité, c'est une question de quantité. Toi, petit Louis, t'es pas dans le coup. T'as pas voulu prendre les armes, t'as pas voulu en tuer du tout. Et ils t'ont mis tous en cabane. Le sort a de ses ironies. Les plus connus, un colonel, un général dont l'on s'en fond le sable chaud, ça vous remonte le moral le matin pour partir au boulot, que je vois avec mélancolie, qui a jamais le nom de petit Louis. Le sort a de ses ironies pour petit Pierre, la panoplie de l'assassin s'épanouit dans les magasins. Du côté de Saint-Amand-Montrond, ton nom ne dit plus rien à personne. Le maire s'appelle Maurice Papon, c'est le matraqueur de Charonne. Moi je redis le nom de Petit Louis, en contrepoint à la connerie.
C'était donc Elisabeth qui rendait hommage à Petit Louis, Louis Lecoing, qui aussi, je ne l'ai pas dit, mais on peut le dire, est l'homme qui a arraché à De Gaulle le statut des objecteurs de conscience dans les années 62, je crois me souvenir. Vous écoutez bien Radio Canu 102.2 MHz, la plus rebelle des radios, le Canu Info du 30 septembre, avec, tiens, allez, une bonne nouvelle pour commencer. Pépère était à Cherbourg ce matin pour inaugurer des turbines hydrauliques qui vont nous sauver des centrales nucléaires, puisque les turbines hydrauliques, c'était des ailettes qu'on met dans l'eau et qui, avec la marée et les courants, font de tourner les ailettes et les dynamos, et du coup, on fait du courant en gigawatts. 4 fermes plates inaugurées. Et pendant ce temps-là, Robert, Ségolène, elle, essayait de sortir de l'eau une entreprise qui a bien du mal, oui, à le faire.
Oui, ça, elle se bat depuis des années, on peut presque dire, pour que Eliès, qui est un équipementier de qualité, c'est une vieille entreprise, qui sur Poitou-Charentes, je crois que c'est à Cerise qu'elle doit être installée, était sur le point de couler parce qu'effectivement, on ne faisait plus appel à elle. Et puis peut-être du côté français, même si en Poitou-Charentes, on se bat pour garder les entreprises. Et c'est très courageux la politique économique et sociale qui est menée en Poitou-Charentes et qui est due, et ça lui est reconnu d'ailleurs. À Ségolène Royal, on lui reconnaissait toutes les qualités, sauf celle d'être éventuellement chef d'État. Mais ça, c'est dans nos mœurs, peut-être antiféministes, bien françaises. Alors, elle, aujourd'hui, a été annoncée, finalement, la disparition de Liège. Parce qu'il n'y a plus de cahier de commandes. Bon, il y a bien quelques Allemands qui... Bosch, je crois que c'est Bosch, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est Bosch, qui va peut-être fin octobre. Mais comme par hasard, c'est le 1er octobre que la liquidation est demandée. Et Bosch va dire, mais le 31 octobre, j'aurai peut-être quelque chose pour vous. c'est grotesque. Et donc, Ségolène Royal, elle a dit, eh bien non, moi, de toute façon, je ne laisse pas tomber. Il y a des machines et je laisserai pas partir ces machines à des prix scandaleusement bas, rachetées on ne sait trop par qui pour faire des profits qui peut-être qui seront ensuite revendus dans ces marchés inqualifiables. Et je pense qu'elle devait penser un peu aussi par exemple, c'est pas des petites machines, mais les hauts fourneaux de Florange, qu'on a fermé et qui quoique moderne et de qualité, sont voués à terme à la destruction puisque rien n'est proposé pour eux. Et en même temps, c'est peut-être juste peut-être une espèce, effectivement, de manière de dire à son ex, écoute, vraiment, tu fais pas une vraie politique sociale. Dans le programme du PS et dans ce que tu avais promis, tu voulais sauver les entreprises, et puis il semble bien que c'est pas vraiment ce que tu fais. Et notamment cette plateforme publique de recherche et développement sur la sidérurgie. Bon, je me mets dans la pensée de Ségolène Royal. Je connais pas du tout son opinion sur la question. Mais c'est une manière peut-être de lui dire, écoute, c'est du vent, ça. Moi, je prends la question autrement. Je dis, voilà, on va mettre des sous pour garder les machines, garder un certain nombre d'emplois, et peut-être transformer cette entreprise en coopérative d'économie mixte, alors avec la région. Voilà, et elle veut engager la région dans le maintien de Liège, coûte que coûte. Et pour elle, ici, l'argent, c'est beaucoup plus que des dépenses, c'est aussi la dignité qui est en jeu. Je trouve ça assez grand, et effectivement, comme souvent on l'a dit, je me souviens pendant la campagne présidentielle, on dit « Ah, mais finalement, Ségolène Royal, on ne fait pas attention, mais quand on regarde ce qu'elle fait là-bas, en Poitou-Charentes, elle est beaucoup plus progressiste que beaucoup de gens, que des socialistes qui font de belles déclarations à gauche. »
Bon, voilà. Allez, on va parler un petit peu du match Valls-Duflo. À ma droite, Valls, à ma gauche, Duflo. L'arbitre, un peu aux abonnés absents, il se plante, on ne sait pas derrière quoi, c'est Hollande. Et ben, on en est un petit peu là ce soir, il change d'argument autour de la question des Roms. Faut-il les intégrer, faut-il les renvoyer chez eux, par boîte de combien? En tous les cas, ce qui est sûr, c'est qu'en 2012, on a accéléré, 2012-2013, on a accéléré le rythme des retours, et que Valls se fait fort de mener cette politique-là, du flot, sur une ligne plus à gauche, réclamant une politique plus humaine et des possibilités de vie pour ces gens-là dans la France. Ils sont que 17 000, ils occupent l'actualité dans les médias à longueur de journée depuis une semaine. On peut se demander aussi à quelle instrumentalisation ça correspond. Qu'est-ce que c'est que 17 000 personnes dans un pays de 65 millions? Pas grand-chose, et ça constitue pas un problème majeur, même si effectivement leurs conditions de vie sont assez misérables.
Michel? Non, mais je peux juste effectivement suspecter Valls d'avoir au préalable commandité un sondage avant de publiquement dénoncer donc l'incapacité des Roms à s'intégrer à la société française. Ça colle, enfin c'est assez, enfin c'est la nouvelle politique, c'est ça, hein, aujourd'hui, à coup de sondagite privé, hein, avant de les rendre publics, et à coup de déclaration dont il savait. On savait effectivement que ça allait provoquer des vagues, surtout au sein du Parti socialiste et du gouvernement, mais c'était une manière pour lui déjà de se positionner, donc il pense qu'à lui, hein, et il se positionne en vue, il est jeune, hein, donc il peut voir les choses venir en tant qu'alternative à cette gauche incarnée par le Parti socialiste qui a complètement failli, et une droite qui n'en finit plus de se déchirer et qui n'a pas d'avenir. Peut-être l'alternative, effectivement, ce sera, c'est ce qu'il espère, hein, ce sera la version dure d'un pseudo-socialisme incarné par Manuel Valls.
Le clone de Sarko socialiste. Robert, tu voulais en dire un mot?
Non, pas sur cette question, là. Moi, je crois que vous avez dit l'essentiel. Peut-être à remarquer que, par exemple, les courants de gauche du PS qui étaient réunis, notamment le courant Un Monde d'Avance, dont le leader est le ministre Benoît Hamon, tout en portant un jugement légèrement sévère sur son camarade de gouvernement, en fait, n'en tire aucune conclusion personnelle, et ni son groupe, sur la marche à suivre.
Un peu de social, le travail du dimanche. Alors là, en attendant le retour de l'esclavage, on essaye beaucoup de choses. Et pourquoi pas tout le monde ne travaillerait pas le dimanche? Comme ça, on pourrait revenir au dimanche de repos, puisqu'ils n'auraient plus l'occasion d'aller faire leurs courses quand ils ne travailleraient pas. Et pourquoi pas aussi l'école le dimanche? Et pourquoi pas aussi la nuit, puisqu'il faut libérer le travail. Libérons, libérons. Et puis on peut se demander également s'ils peuvent payer double ou à 25% de plus le dimanche ou la nuit. Pourquoi ils ne peuvent pas payer double le reste de la semaine? Il y a quand même des questions à se poser. Et pourquoi les Suisses, eux, peuvent payer double les ouvriers et pas les Français? Donc, faux débat, mais qu'on instrumentalise beaucoup en faisant passer les syndicats pour des mondes réactionnaires. Et puis les gens qui aspirent soit à s'auto-exploiter, soit à user du système pour tirer du profit sur le dos des autres, de les laisser faire, quoi. Voilà, vous avez peut-être quelques...
Non, juste rappeler ce principe, hein, c'est pas un service public, hein, l'ouverture des magasins le dimanche, hein, c'est faire du profit, et faire du profit même en payant en double le dimanche, ses employés, avant tout, ça marche tant qu'à la fin, il y a du profit, donc tant qu'on les marche, quoi.
On peut quand même se demander s'ils font du profit en payant double dimanche, ils doivent bien faire le même profit en payant la moitié le reste de la semaine.
Ah, ils font plus que du profit le reste de la semaine.
Donc ils peuvent payer double le reste de la semaine.
Tout à fait. Bon, se pose quand même la question, dans une économie où la croissance est à tonnes, du bien fondé de l'ouverture du dimanche. Je veux dire, c'est pas en ouvrant plus s'il n'y a pas de gens pour acheter les produits que ça marchera pour autant.
Oui, ben on nous explique que les gens qui travaillent la semaine n'ont pas le temps de faire leurs courses, donc ils n'ont que le dimanche pour faire leurs courses, donc il faut qu'il y en ait d'autres.
Je pensais qu'on était une société de chômeurs, de fainéants, mais non, apparemment, non, on travaille trop la semaine.
Donc il faut dire que ça a été passablement embrouillé, puisqu'en 2008, on a autorisé les ouvertures pour l'ameublement. En 2009, une certaine loi Maillet autorisait l'ouverture dans les zones touristiques où, admirez le mot, les périmètres de consommation exceptionnels. Qu'est-ce que ça veut dire? Périmètres de consommation exceptionnels. Il y avait Paris, Lille, Marseille de concernés. Et voilà, alors bien sûr, comme les capitalistes sont grangent dans la brèche, hein, et cherchent à étendre au maximum ces possibilités. Robert, as-tu une idée là-dessus? Fais-tu tes courses le dimanche, toi qui es retraité?
Non, mais je sais que ici, il y a une messe le dimanche matin, et que même à midi, le curé, il sort tout habillé en curé, c'est-à-dire avec ses ornements d'exercice, et il bavarde avec un dernier carré de fidèles qui est sur le pas de la porte de l'église. Et évidemment, si les magasins restent ouverts, il va peut-être perdre encore quelques clients.
Il peut vendre des hosties aussi. Un petit mot sur la mise du flow. On aime bien la mise du flow. Elle est sympathique, la mise du flow. Hein. Moi, je voudrais quand même rappeler sa loi, parce qu'on a quand même mis les écologistes, le ministère de l'urbanisme. Et quand on voit certaines publicités, vous l'avez peut-être reçu, vous aussi sur Internet, cette publicité, elle a fait une loi du flow. C'est bien ça, d'avoir une loi qui porte son nom. Mais qu'est-ce qu'elle propose, cette loi? Ben, constituez-vous un patrimoine immobilier important, percevez des revenus complémentaires, bénéficiez d'une fiscalité avantageuse, sans apport, réalisez un projet immobilier locatif. La loi du flow accorde aux particuliers qui investissent dans un logement neuf destiné à la location pendant 9 ans une forte réduction d'impôts pendant la période de location. Ainsi, l'investisseur peut bénéficier d'une réduction d'impôt de 6 000 euros par an pendant 9 ans, soit une réduction totale d'impôt de 54 000 euros. Résumé, sans apport, économiser jusqu'à 54 000 euros d'impôt. On a mis les écologistes au gouvernement pour ça, vous croyez?
Oui, oui, oui. C'est bien de le mettre en avant. Donc c'est assez étonnant que cette loi du flou, finalement, elle bénéficie pas à ceux qui en ont besoin, à savoir les mal logés, mais elle bénéficie avant tout à ceux qui ont de l'argent à investir, parce que c'est pas autre chose, ont de l'argent à investir, ne savent pas comment se dépareiller des impôts, et donc voilà, ils ont trouvé une niche. Une niche de plus pour une catégorie socio-professionnelle plutôt privilégiée dans la société française.
Ouais, on paye des appartements gratuits aux riches pendant que les pauvres n'arrivent pas à se loger. Le contrat de génération, donc c'est pour l'embauche de moins de 26 ans. Quand on a la générosité de garder un plus de 57 ans dans la boîte, là je parle pour les petites boîtes de moins de 50 salariés, hein. On verse royalement 4000 euros par an au patron pendant 3 ans. Et ça ne marche pas aussi bien que le gouvernement le souhaiterait, puisqu'à mi-septembre, il y en a eu 10 700 de signés. Dans les boîtes un peu plus grosses, jusqu'à 300 salariés, il faut un accord de branche pour lancer de telles procédures. Du coup, il n'y a que deux branches, la métallurgie et les assurances, qui ont bien voulu signer à ce jour, sur 400, hein. C'est beaucoup. Et dans les très grosses boîtes de plus de 300 salariés, il n'y a pas de prime, mais elle a des pénalités. Et 5000 sont prévus pour le moment, à fin août, il y en a 124 de signés. On ne peut pas dire que ça marche du feu de Dieu, hein, contrat de génération. Robert, as-tu d'autres sujets?
Oui, je voulais évoquer le débat sur la retraite ou les retraites, on ne sait pas s'il faut employer le singulier ou le pluriel, les retraites qui va démarrer, débat au Parlement, qui va démarrer à l'Assemblée lundi prochain, 7 octobre, et donc un renforcement de la mobilisation autour de cette question de contre-réforme, puisque finalement, tout en décélérant, elle ne fait que poursuivre l'œuvre de Sarkozy en matière de retraite, même si effectivement elle veut se montrer moins violente. Donc la semaine prochaine, eh bien, il y aura, comme il y en a un peu déjà en ce moment, un peu partout, mais encore un ton au-dessus, des rassemblements, des mobilisations. Ainsi, la CGT va faire plusieurs jours, du 7 jusqu'au 10, des mobilisations, peut-être des appels à des débrayages, je ne sais pas trop. Les FO aussi, et puis je pense que les syndicats hostiles oppositionnels à cette retraite, Solidarité probablement également, va se retrouver mobilisé comme il l'a été précédemment, notamment la journée du 10 septembre. Et puis il y a un collectif que l'on trouve facilement sur Internet et qui fait partie effectivement d'une manière des réseaux sociaux pour combattre ce projet. C'est retraite2013.org, retraite2013.org, où on a toutes les informations sur les différents lieux de renforcer la bataille contre ce projet de contre-réforme. Et on sait que cette bataille se mène sous un slogan très très facile et pas du tout démagogique. Et ce slogan, c'est « pas un trimestre de plus et pas un euro de moins ». Et ça a été prouvé, les économistes et des experts l'ont montré que effectivement, il y a d'autres moyens, notamment passant par la réduction du temps de travail. Bon, il y a toute une série de choses qui permettent de compenser largement d'abord la création d'emplois et donc toute une série de choses faire des ressources et surtout combattre toutes les tendances dures en matière de transformer les retraites en capitalisation qui effectivement serait un des plus grands reculs depuis le Conseil national de la résistance et l'après-guerre.
Voilà, en quelques minutes, le mariage gay du MoDem et de l'UDI, oui, gay parce qu'il n'est pas triste, hein, t'a-t-il ému? Il s'agit en gros de récupérer des députés aux prochaines élections européennes, quoi. Alors, en faisant liste commune, sinon les deux non liés n'allait pas avoir suffisamment de voix pour avoir des gens éligibles. Tu l'as compris comme ça? Non, il n'est plus là. Bon.
Ah, si, si, moi je suis là. Je ne sais pas si c'était si Michel.
Non, non, c'est pour toi. Non, ça ne t'inspire pas spécialement.
Non, non, non. Oui, bon, c'est, effectivement, c'est une note d'humour qui d'ailleurs, a toute sa place dans le débat politicien. C'est tout à fait, effectivement, à cette mesure-là. Oui. J'avais peut-être une très brièvement, parce que je vois que je pense que tu vas me dire qu'il ne reste plus beaucoup de temps.
On arrive au bout avec un petit peu d'annonce.
Simplement, je voulais signaler, tout à l'heure, j'ai évoqué, on aura le temps de faire dans les prochaines semaines le grand marché transatlantique qui se négocie en coulisses entre donc des représentants non élus de l'Europe, Union européenne, et des représentants, donc sont toujours les fameux experts américains, pour transformer effectivement la zone de libre-échange en véritable traité pour une libération des investissements et ajouter à cette situation déjà de libre-échange entre les deux continents au grand détriment effectivement des Européens quand on compare les deux systèmes socio-économiques. Et je voulais simplement signaler que vient de sortir Dracula contre les peuples. C'est Patrick Le Yarrick, qui est directeur de l'Humanité et député au Parlement européen, et qui a eu tous les textes concernant cette négociation. Et c'est un précieux document pour s'informer et aussi de participer à cette bataille contre le grand marché transatlantique que l'Europe veut nous imposer et soumission aux Américains.
Voilà, ben quelques infos culturelles quand même. Jeanne Garraud, la fille, sera à la salle Paul Garcin ce mercredi 2 octobre, à tout bout de champ Palandry les jeudis et vendredis. Le samedi 5 à Pélussin, bon, vous n'irez pas avec la ligne A du métro, mais une soirée hommage à François Béranger, musicale et festive, avec attention, Rural Pezzouille, Tranche de vie, et puis beaucoup d'autres animations autour du livre. C'est le 4e salon des éditions d'art et livres d'artistes à Pélussin. À l'OIAS, samedi 5 à 14h30, encore un concert gratuit. Le soir, bal brésilien à la Mèche, 22 rue du Chariot d'Or. Et puis dimanche, si vous aimez les bonnes découvertes, eh ben c'est le premier tremplin découverte à tout bout de champ. Ce Canu Info sera rediffusé demain matin à 8h. Vous pouvez le entendre sur Internet aussi. Et je vous propose de nous quitter avec la toute récente musique de Gérard Memmonger.
Quelques-unes de vos nuits. Madame, dame, femme de Valence, toi tu sais de lui toute son enfance. Il me parle de toi comme il parlerait de sa sœur. Tu n'es pas celle qui a percé son cœur. Madame, dame, femme de Nanterre. Il ne t'a jamais avoué, j'espère, que c'est parce que tu lui rappelais un peu sa mère, que la foudre n'a duré qu'un éclair. Madame, dame, femme de Toulouse, de toi j'avoue je suis un peu jalouse. Toi qui d'un tout petit coup d'aile d'amante volage l'a laissé tout penaud sur le carrelage. Mesdames, dames, femmes de mon homme, plus il approche et plus je vous pardonne. Le charme ravageur de vos yeux verts, de vos yeux bruns, votre pierre posée sur son chemin. Mesdames, dames, femmes, peut-être bien que c'est grâce à vous que je tiens sa main. Que de ces failles qui sur vous sont restées des blessures, il ne me reste que les égratignures. Mesdames, dames, femmes, je vous dis merci. Vous qui m'avez un peu chauffé le lit, je vous connais de loin et vous, vous ne me savez pas, pourvu qu'aucune autre ne sache de moi. Mais si, madame femme de nulle part, tu rencontrais mon homme un peu plus tard, je voudrais qu'aujourd'hui, on ne s'en veuille pas si j'ai laissé du gravier sous ses pas.
Jasmin tressant en gerbe d'épée, ses cheveux mordorés. Si on réveille des ruisseaux sur le ciel, la marotte, que les faux des draps du lit traînent dans ses tripes sur les briques, les taches éclaboussées des étoiles chères, les cocos bleus de la nuit, la pureté du dessin sur le violet de Cobalt, brassant le sel des ailes, couvant les perles bouillantes, faisant chambre à part moissonnant grâce, amour et douceur. L'architecture de son dos est faite. Illuminant le grand éloquent discours chanté à bras le corps à la fenêtre, son bras démonte goutte à goutte en cascade la source du bonheur. Sur les marbres chiffonnés des draps bleus perfanches, la nuit couvre le linon de sa face, du vol d'oiseau rit dans la glace de ses doigts poisseux, couverts du miel des ruches, raclés au satin des étoiles. L'arche du pont cabre ses reins sous les cordes de la harpe, la majuscule de son nom déchire la toile et découvre sur le tableau la source. Sucre le fond du lac, du farouillant son corps, du grillage de ses morsures. Un voile de cendre étouffe les cris du soleil, pris à bras le corps par l'absence. Une étoile de mer remonte en grinçant ses pleurs, l'enfant pleine de baisers au bout de la corde. La chèvre bat son plein et chasse le loup de la reine. L'amour trahit ses armes et mord la poussière en tapant de ses ailes. Contre les vitres, on entend l'heure assise au bord de la chute. La fille de papa, la fille de maman, la fille de sa fille et la fille mineure, et la fille du père et la fille de la mère, la fille de l'aïeul et la fille du papa, et la fille du géant, la fille du nain, douce et toutes les filles naturelles, tardives de saison, du pays, du peuple de plaisir, fille publique assise, couchée debout, à genoux sur une chaise, endormie, réveillée, grosse, maigre, silencieuse, bavarde, sale cochonne, propre à
intelligente, bête ordonnée, caressante acariâtre et tous les garçons danseurs du pays des alentours, fils de putain, fils de curé. Et sa punaise, ciel bleu, étoilé, nuages rouges mordorés. Citron vert amande, le premier qui rira aura la claquette et les chiffres magiques pour les compter, le X, le Z, les 24 premiers démons, du moins la boîte à sel, les laitues, le melon, les plantes aromatiques et la boîte à malice du fin fin de l'histoire. Et les bonjours, bonsoir et merci, merci de toute la compagnie. Tout compte fait, ici termine ce roman feuilleton pour annoncer la suite du prochain historiquement. Dans l'angle vulgaire, par les soins méticuleux et jaloux du saint auteur me garde. Calculant l'étendue du désastre, jambes ouvertes en éventail, la chaise à genoux tenant pressée entre ses doigts, sur sa poitrine la chemise de nylon, offrant ses champs d'avoine au jet de la fontaine, attaché au gibet soutenant la nuit la tranche de melon, morte en folle d'amour, la plus crochue du vol démesuré des pivoines. Éclabousser d'épingle et pâle pour constater la chose et tirer le sac de marron du feu.